Moi, c'est André de Mboujima, locataire oriental. Je réfute totalement ce que
tu... Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole dans cette émission 100% interactive. Parole aux auditeurs. Seuls les dossiers de 12% des femmes ont été déclarés recevables pour la députation provinciale et 12% également à la députation nationale. Aucune femme n'a été retenue pour la présidentielle du 23 décembre 2018. Alors ces statistiques relancent les débats sur la problématique de la représentativité des femmes dans les prochaines institutions. Qu'en pensez-vous ? Vous pouvez participer à cette émission à l'adresse pa@radiocapi.net. Vous pouvez également nous rejoindre en direct en composant les 081 890 63 30 ou bien le 081 890 49 69. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jean-Claude Siala est à la mise en onde de cette émission réalisée par Pierrot et la Mégie sous la supervision de Martin Sebujangwe. Nous avons le plaisir de coordonner et présenter cette émission. Nous, c'est JR Lungembo Luabung Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, JR Lungembo.
Nous avons en ligne Madame Faïda Mwangiloa qui est avec nous. Oh, bonjour Madame.
Bonjour.
Alors, vous êtes ministre honoraire du genre, famille et enfants. Au regard de ces statistiques, est-ce qu'on peut dire, sans être contredit, que la lutte pour la parité en RDC, après la victoire normative, est loin de se terminer sitôt ?
Effectivement, la lutte pour la représentation des femmes dans les instances décisionnelles est loin vraiment d'être atteinte. Ce qui est vrai est que femmes travaillent. Les femmes de la République démocratique du Congo travaillent pour la participation politique de la femme, mais ne sont pas soutenues au niveau des textes. Nous pouvons dire ces 10 dernières années, ces 15 dernières, s'il faut le dire ainsi, nous avons juste connu des avancées en termes normatifs. Quand nous regardons, nous consultons la constitution de la RDC, c'est parmi les grandes innovations. L'inscription de la parité homme-femme. Mais il se pose un problème. Il y a plus de 10 ans que nous avons travaillé pour qu'au niveau de la loi électorale, qu'il y ait des dispositions contraignantes favorisant la participation égalitaire des hommes et des femmes. Mais malheureusement, nous n'avons pas atteint cette élite-là. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment très décevant, 12%. Dans une communauté où il y a des préjugés sur les femmes politiques, dans une communauté où il y a des pesanteurs culturelles, il est tout à fait normal d'avoir des dispositions contraignantes. Mais ce qui n'a pas été le cas en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de voir que la représentation des femmes dans les organes délibérants, d'ici la fin, la proclamation des résultats aux élections provinciale et nationale, ça sera moins de 10%, parce que plus vous alignez des candidats, plus vous avez des chances d'avoir un taux élevé de participation des femmes. Mais déjà, au niveau des candidatures, nous sommes confrontés à une autre difficulté.
Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité de la femme elle-même ?
On ne peut pas ramener la responsabilité au niveau de la femme. Dans tous les pays d'Afrique, là où il y a eu des améliorations en termes de la représentation des femmes, ils n'ont pas appliqué d'autre chemin que de prendre des dispositions contraignantes, de lever des options, même aller au niveau des quotas. Mais les femmes de la RDC se sont battues ces 15 dernières années sans arriver à ce que les autres ont fait. Nous avons les mêmes pesanteurs culturels, bien que les contextes soient différents d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Donc la RDC ne pouvait pas faire exception. Oui, mais je ne peux pas ne pas parler de ça aussi. On peut prendre cela parce qu'on a empêché à personne de se représenter. Mais il se pose un problème. Les élections aujourd'hui en RDC sont chères et le coût est pris en charge par les acteurs politiques. Il n'a pas été facile pour les organisations politiques d'aligner des femmes qui n'avaient pas de moyens. C'est un problème d'intérêt pour les partis politiques. Ils ont voulu aligner les hommes qui avaient leurs moyens en laissant les femmes qui pouvaient les ramener la masse. Vous allez voir, ils vont les utiliser dans la sensibilisation. Moi, je crois qu'il y a une part de responsabilité, bien sûr, au niveau des femmes, parce qu'on a vécu cela, des femmes qui étaient alignées, mais à la dernière minute, moi, j'ai connu cela, elle s'est dit non, mon mari a refusé. Mais pourquoi tu n'as pas parlé avec ton ami dès le début de ce projet, ton mari, dès le début de ce projet? Donc, mais la grande responsabilité revient aux dirigeants congolais. La grande responsabilité revient, en tout cas, aux institutions congolaises qui ont mis un accent au niveau des innovations en termes de la représentation paritaire des femmes, en inscrivant cela comme principe dans la Constitution, mais dans le fait, comme d'habitude, l'application des textes pose des problèmes en République démocratique du Congo. Donc, nous devons continuer avec le combat, parce que ce que nous faisons, c'est pas pour nous, c'est pour l'intérêt de la communauté. Plus vous avez des femmes dans les instances décisionnelles, plus vous pouvez entamer le processus de développement. Mais peu de gens comprennent cela dans ce sens.
Alors, madame, juste une question de curiosité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la RDC est prête à avoir une femme à la tête, par exemple, du pays?
Mais la RDC n'est pas prête. Si la RDC était prête, allez déjà parmi les candidats, vous alliez voir des femmes. Les candidats ont été proposés par Kipeso, ceux-là qui sont indépendants, mais plus par les regroupements politiques. Quel est ce regroupement politique qui a proposé une femme? C'est pour vous dire que les dirigeants politiques de la RDC aujourd'hui ne sont pas prêts à aligner une femme à la tête ou à avoir une femme à la tête de ce pays. Mais les femmes doivent continuer à travailler et nous devons continuer à travailler. Il y a des gens qui travaillent sur ça parce que ce que nous voulons, c'est le bien-être de la population. Mais effectivement, la responsabilité nous incombe aussi parce qu'on ne fera jamais de toi ce que toi-même tu n'as pas en tête. Donc moi, je crois que la lutte continue, que les femmes ne se découragent pas, que nous voyons comment encourager ceux-là qui se sont présentés comme candidates de manière ne fût-ce qu'à maintenir le taux de représentation des femmes dans les organes délibérants.
Alors, il y a quelqu'un qui a réfléchi, qui a fait une réflexion en disant, par exemple, qu'il y a également ces problèmes culturels qui nous rattrapent souvent au regard de l'histoire de ce pays. À la première heure même de l'indépendance, ce sont des hommes qui étaient très engagés politiquement et par la suite, les femmes timidement ont rejoint la barque. Mais aujourd'hui, on sent de moins en moins l'engagement politique des femmes, même au sein de partis politiques.
Là, les femmes sont là, mon frère, les femmes sont là. Vous êtes des journalistes et vous les voyez. Elles sont dans les partis politiques, mais elles occupent quelles fonctions dans ces partis politiques? C'est tout cela les débats. Elles sont là, on les intègre, mais on ne leur donne pas le pouvoir de décider. Moi, je ne peux pas évoluer dans un parti politique où je n'ai pas le pouvoir de participer, je n'ai pas la possibilité de participer à la prise de décision au sein même de ce parti politique. Je ne peux pas y aller. Donc, c'est un jeu qui ne dit pas son sens. D'un côté, on encourage la participation politique des femmes, mais quand on arrive dans les faits, on les laisse, on les oublie. Je connais des femmes qui se sont lamentées, même au niveau des grandes organisations politiques. Elles étaient là avec leurs dossiers, mais lorsqu'il s'agit des enjeux politiques, on les a laissées tomber et en privilégiant les candidatures s'il faut le dire ainsi. Oui. Donc, je suis en train de dire ici que nous ne faisons pas une bonne politique. La politique doit avoir des principes clés et doit observer en tout cas les lois du pays. Mais si on ne veut pas le faire, je ne sais pas, on le fera. Et moi, aujourd'hui, je dois le dire ici que notre chef de l'État, il nous a aidé juste parce qu'il avait refusé pour apporter l'innovation par rapport à l'inscription de la parité homme-femme dans la Constitution. Ça n'allait pas passer parce que c'est la majorité qui était au pouvoir. Mais dans la faisabilité maintenant, pour dire qu'est-ce que je peux laisser à ces femmes comme cadeau, moi en quittant le pouvoir, Ok, bien sûr, nous aurons la chance de le rencontrer, même après son départ de l'institution, on lui dira, vous nous avez laissé seul, monsieur le président. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de continuer à appuyer sur terrain les activités des femmes? Parce que
voilà.
Je crois que à ce niveau-là, il ne nous a pas aidés.
Voilà, on va revenir avec vous, madame. Nous rappelons que vous êtes ministre honoraire du genre famille et enfants, madame Faïda Mwangila, que nous recevons aujourd'hui pour échanger de manière citoyenne avec les auditeurs qui s'intéressent à ces sujets sur les pourcentages faibles des femmes ou des dossiers déclarés recevables, qu'il s'agisse de la députation provinciale ou au niveau de la députation nationale, mais au niveau de la présidence. Il n'y a aucune femme qui n'a été retenue pour la présidentielle, mais on nous laisse entendre qu'il y a certaines femmes qui ont tenté, mais faute de preuves de paiement ou de caution, les dossiers n'ont pas été reçus au niveau de BRTC. Voilà, madame, nous vous gardons en ligne, il est temps d'accueillir également les autres auditeurs qui nous ont rejoints. J'espère bien que les femmes vont également intervenir au cours de cette émission, parce que chaque fois que nous débattons des sujets, de moins en moins les femmes interviennent, c'est ça prouve insuffisance que l'engagement, il est vraiment faible. Mais je crois qu'aujourd'hui, elles feront exception. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Ignace Akolesi, gardez la ligne. 09 97 06 63 30 ou encore 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct.
Grande interview. L'actualité en profondeur sur Radio Okapi, c'est dans Grande interview. Des questions politiques, économique, sécuritaire et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordés avec les spécialistes et les acteurs qui font l'actualité. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, 13h05 et 19h35.
Parole aux auditeurs.
Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Jérémy,
bonjour,
vous êtes avec nous.
Monsieur le journaliste.
Voilà, vous venez de suivre notre invité tout à l'heure. Allez-y.
Oui, je voudrais d'ailleurs saluer la pertinence de ce sujet, mais au regard de ce pourcentage vraiment déficitaire sur le plan national, tout comme provincial. Cela prouve à suffisance que la femme, d'une manière générale, n'accorde pas l'importance de ce qu'elle doit être. Je suis en train de me demander, est-ce que l'émancipation doit-elle toujours continuer jusqu'à quelle dimension? Il suffit de voir, à l'état d'autres pays, comment est-ce que les femmes émergent sur le plan politique, sur le plan culturel, mais il y a certaines choses qui doivent quand même nous imprégner. Il suffit de voir un peu, même quand on donne une responsabilité dans les portefeuilles pour les femmes, il faut voir comment est la gestion des femmes. Elles sont de bonnes gestionnaires, mais je me pose la question, pourquoi est-ce que la femme n'arrive pas à compétir dans l'espace politique ou dans tout autre espace? Moi, je pense que c'est à la femme de prendre sa responsabilité, parce qu'elle est devant un fait accompli. C'est à elle-même.
Oui, Jérémy, est-ce que vous partagez l'avis, Jérémy? Oui, Jérémy, est-ce que vous partagez l'avis selon lequel le fait que ça fait 10 ans qu'on n'arrive pas, malgré quelques avancées normatives, on n'arrive pas réellement à appliquer ces dispositions, carrément les supprimer, soit dans la loi fondamentale ou dans la loi sur la parité?
Et vous avez effectivement raison, monsieur le juge, et cela est évident, parce que l'expérience prouve à suffisant. Il suffit de voir d'abord, sur le plan statistique, sur le plan démographique, qu'est-ce que la femme ou les femmes représentent dans notre pays, à cette dimension dite continentale? Mais comment est-ce que la femme n'arrive pas, ou les femmes n'arrivent pas à occuper quand même à ce point-là? Il suffit de voir combien de candidats nous avons aujourd'hui, présidentiels, dans le cadre des femmes. Combien avons-nous? Il y en avait une seule, je pense que son dossier était capté.
Mais il y avait une dizaine, bon, si mes calculs sont bons, qui avaient annoncé leur candidature à la présidentielle. Mais à la dernière minute, on nous signale que, faute de caution, faute d'argent, ils n'avaient pas de pouvoir économique, c'est pourquoi ils n'ont pas pu déposer leur candidature.
Effectivement. Mais moi, je me dis, mais les femmes jouent autant, tout ce temps, mais ceux qui bénéficient de ces mélodies, ce ne sont que des hommes. Et ce sont les hommes qui tirent les fringues de jeu, et les femmes restent, et se cramponnent à côté, mais elles ne font pas partie de l'action. Moi, je pense que nous, la responsabilité partagée, c'est nous les hommes qui devrons à tout prix aider les femmes pour que les femmes se retrouvent. Parce que moi, je suis sûr, je partage l'avis de ceux-là qui disent que, en tout cas, les femmes sont des bons gestionnaires. Il faut seulement se souder les coudes et les propulser, et les choses iront mieux.
Merci beaucoup, Jérémy. Alors, on va prendre Ignace qui est à Colésie. Ignace, bonjour.
Bonjour et merci pour l'invitation. Je pense que la loi garantit cette représentativité. Il faut se dire que on n'est pas au niveau de statistiques à proprement parler seulement comme loi. C'est-à-dire que lorsqu'on doit présenter, par exemple, la liste, il faut absolument qu'il y ait 30%. Il peut arriver qu'il n'y ait pas assez de femmes au sein du parti qui en est, mais qui n'ont pas cette ambition. Je ne pense pas qu'on va utiliser juste l'aspect sexe pour compléter les 30%. C'est qu'ici, les femmes doivent prendre conscience elles-mêmes de leur situation, exprimer leurs ambitions, et se faire valoir parmi les hommes lorsqu'ils sont au sein d'une structure politique. J'ai aimé quand vous avez évoqué l'analyse de quelqu'un d'autre là qui a parlé des pesanteurs culturels. J'y ai pensé. C'est que les pesanteurs culturels étouffent et éloignent la femme. Hein. Quand elle est parmi les hommes, elle se sent un peu complexée. Là, ça revient encore à la responsabilité de cette femme qui doit sortir de cette emprise. Mmh. Et il n'y a aucune latitude des hommes au sein des partis politiques. Mais il faut dire que quand une femme vient au sein d'un parti, elle présente ses ambitions, elle s'est née, on ne va pas lui demander d'aller danser, acclamer, chanter pour les autres. Non, ça dépend de la manière dont elle se présente. Et elle vient pour participer au débat et s'engager. Donc il est nullement l'égoïste des hommes, mais un faible penchant pour l'action politique, le ministère politique. Vous savez, il faut avoir un certain cœur, il faut avoir un certain courage pour affronter les réalités du terrain politique. Mais j'estime que déjà, si on a 12% au provincial, 12% aux élections de députation nationale, et déjà une femme qui se présente à la présidentielle, même si elle est aujourd'hui invalidée, c'est à titre provisoire, peut-être que demain, cela peut marcher, et éventuellement, elle pourrait se retrouver présidente de la République, si c'est pas maintenant, même après 5 ans ou 10 ans. Disons donc que c'est à la femme elle-même de s'engager, mais il n'est pas question que l'on dise, non, il faut qu'on écarte les listes qui ne donnent pas 30% des femmes, tout cela. Non. Voilà à peu près comment on voit les choses. La femme doit s'engager elle-même et tout ce qui est sur le terrain. Quand on parle de caution, moi je ne pense pas. La femme est en train de travailler. Si elle se dit qu'elle a de l'ambition, elle doit aussi payer la caution comme tous les hommes. Ou alors il n'y a pas parité. Il ne faut pas qu'on réduise la caution parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'emploi. Non, je ne pense pas.
Voilà. Alors, Ignace, vous avez suivi notre invité tout à l'heure, Madame Faïda Mwangilwa, qui parlait de l'absence de cette disposition contraignante favorisant l'égalité. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ces résultats-là. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, si dans la loi électorale, il y avait cette disposition contraignante favorisant l'égalité, on améliorait ses scores ou encore ses résultats?
Mais je ne pense pas. On pouvait déjà le lire à partir de 30%. Je ne crois pas que dans certaines structures, on ait interdit aux femmes de se présenter. Elles ne sont pas là, elles n'ont pas exprimé leurs ambitions. Parce que si vous les touchez dans une structure A, elle va sortir, elle va constituer sa structure et elle avance. Il faut dire aussi que les exemples des femmes qui s'engagent ne sont pas assez suffisants pour attirer l'attention des autres. Donc on peut mettre 50% comme condition. Il y aura des listes vides. C'est comme ça. Moi, je pense que c'est comme cela.
Merci.
Déjà fait quelque chose de bon, comme on a commencé avec une femme de la présidentielle qui a tenté et qui pourrait être maintenue. Et je crois que la Cour constitutionnelle devait réfléchir dessus, voir réellement si les motifs qui ont milité pour son invalidation sont valables ou pas pour qu'on maintienne aussi une femme. Voilà à peu près comment.
Merci, merci beaucoup Ignace de Colésie d'avoir contribué dans cette émission. Alors on va prendre une femme qui nous a rejoint. Je crois qu'il y en a des milliers qui aimeraient bien intervenir dans cette émission. En tout cas pour la première fois, on souhaiterait vous avoir nombreuses pour intervenir et réfléchir ensemble avec nous. Maître Elodie, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, merci.
Quel est votre commentaire?
Merci beaucoup, je salue Madame Faïda et je fais mienne son propos. Mais je pense que dans ces débats, on doit aussi insister sur la responsabilité de la femme elle-même. Au-delà de tous les pesanteurs qu'on peut évoquer, qui font à ce que la femme aujourd'hui ne soit pas aussi compétitive que les hommes et qu'elle n'ait pas beaucoup de chance, nous sommes, à mon avis, il y a une part de responsabilité pour la femme parce qu'elle doit être consciente de sa lutte. Et en cela, je vais évoquer le fait que, au-delà de toutes les normes, au-delà de toute la lutte normative qui a été gagnée en partie jusque-là, on doit reconnaître qu'il y a des pesanteurs qui continuent à empêcher à la femme, et c'est à la femme d'être aussi compétitive que l'homme. Et c'est à ça que la femme doit s'attaquer pour espérer être à même niveau que les hommes. Parce que moi, je ne suis pas pour la parité mécanique. Cette parité-là qui dit que non, voilà, parce qu'il y a 50% ou 30% qui doit être accordé à la femme, il faut à tout prix. Et donc, même lorsqu'on a autant d'hommes qui se présentent plus compétents ou en plus grand nombre que les femmes, il faut absolument privilégier les femmes. Non, moi, je ne suis pas d'accord pour cette parité mécanique. Je suis à égale compétence, à chance égale, à compétence égale, à chance égale. Et là, la femme devrait comprendre que la lutte, elle est grande, et on ne peut pas nous dire, non, voilà, vous avez 30% ou 50%, sans nous donner les chances d'être dans ces critères-là. Et si on analyse aujourd'hui la situation, on a combien de femmes qui sont diplômées d'État, par exemple, sur combien d'hommes? On a combien de graduées sur combien d'hommes? On a combien de femmes licenciées sur combien d'hommes? Alors, donc, ce qui veut dire que lorsqu'on doit avoir besoin de 50 femmes licenciées, et qu'on a en face de soi 100 hommes licenciés, vous comprendrez avec moi qu'on prendrait dans les 50 femmes licenciées que celles qui vont être compétitives par rapport à un grand nombre de 100 face aux hommes. Donc, ce qui veut dire que les femmes devaient être plus stratégiques dans la lutte. Et lorsque je parle de plus de stratégie, on doit s'asseoir et voir. On attend plus de nous. Parce que lorsque on a une femme et un homme qui sont gestionnaires, on est plus rigoureux avec la femme qu'avec les hommes. Et donc, avec l'homme. L'homme qui est incompétent, on ne dira pas, oh, non, regarde cet homme incompétent. On va dire, non, regarde cette femme qui est incompétente. Or, jusque-là, et je mets à défi tout celui qui pourra m'éprouver le contraire, les femmes que nous avons eues nous avons vu occuper des postes, des responsabilités, n'ont pas fait une grande différence dans leur manière de gérer, dans sorte que on puisse dire non. À cette place-ci, on préfère ou on ne retient que la femme au lieu de l'homme. Non. Toutes qui ont eu à gérer, qui ont eu à assumer des postes de responsabilité, n'ont pas réussi à se démarquer, à faire une différence, de sorte qu'elles puissent impulser un leadership qui oblige toutes les autres femmes à se ranger derrière.
Oui, alors maître Elodie, est-ce que pensez-vous que aujourd'hui il y a nécessité de pouvoir modifier cette disposition constitutionnelle relative à la parité?
Non, moi je ne suis pas pour la modification de cette disposition constitutionnelle. Non, moi je suis pour la multiplication des stratégies pour les femmes pour permettre à ce qu'elles réussissent à obtenir ce que les droits leur reconnaissent. C'est ça. Et lorsque je parle de cela, on doit Regardez par exemple la question de l'éducation aujourd'hui, ou la question de l'accès aux soins de santé. Pour, je parle de ces deux aspects parce que ce sont des questions importantes qui touchent surtout à la femme et qui la bloquent en sorte qu'elle ne réussit pas à être compétitive. Et lorsque vous entendez, par exemple, Madame Faïda Mwangilwa parler, en tant que femme, en tout cas, il faut être dur pour ne pas lui accorder ce qu'elle demande. Ou Madame, par exemple, Eve Bazaïba, ou toutes les autres femmes que vous connaissez qui parlent, et lorsqu'elles parlent, on dit « voilà une femme qui parle ».
Mais vous n'allez pas en citer une dizaine, parce que finalement, c'est vraiment un petit échantillon, c'est juste
moi,
un échantillon
dire,
des femmes très engagées dans la politique.
Même avec cet échantillon, si elle constitue un leadership fort, toutes les femmes peuvent se ranger. Et lorsque je parle de ce leadership fort, je me dis, elles peuvent être plus stratégiques, ou nous pouvons être plus stratégiques, en disant, non, voilà, la Constitution nous garantit, par exemple, la gratuité de l'enseignement primaire. Ok, nous, femmes, on se focalise sur ça pour obtenir effectivement cela. Ou l'accès aux soins de santé primaires pour tous. Et nous, femmes, derrière Faïda Mwangilwa, Eve Bazaïba, Claudine Lussiou, toutes les autres, on s'est dit, on doit obtenir ce que la Constitution prévoit, la gratuité, par exemple, de l'école primaire pour nos enfants. Et je mets à défi quiconque, toutes les femmes, et peut-être même tous les hommes, se rangeront devant cette lutte et diront, voilà, les femmes méritent du soutien, voilà, les femmes doivent gérer et pourquoi pas doivent diriger ces pays.
Merci
on
beaucoup.
A vu au Libéria, on a vu dans plusieurs pays, les femmes militer jusqu'à faire des privations qu'on ne peut pas citer ici, on ne peut pas reprendre ici, pour qu'elles puissent obtenir ce qu'elles revendiquaient. Mais aujourd'hui, malheureusement, toutes les femmes là qui parlent aujourd'hui au nom de tout, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de lutte, qu'il n'y a pas, et non pas, et non rien
ouais.
fait, il n'y a pas eu de résultats, mais je dis qu'il faut qu'elles puissent être plus stratégiques. Excusez-moi pour finir,
oui.
celles qui sont aujourd'hui, que ce soit dans les ministères, dans les entreprises publiques, dans ou partout ailleurs, monsieur le journaliste, lorsqu'elles sont là, la première priorité qu'elles ont, c'est leur famille, c'est leurs enfants, elles ne font
donc elles ne font pas mieux que les hommes, hein. Donc c'est toujours la répétition.
Savent,
merci.
Elles savent que maintenant là il y a des enfants qui meurent dans des hôpitaux parce que leurs parents ne peuvent pas payer
les frais
de santé, qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, mais entre-temps les leurs vont aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Europe pour les soins de santé et pour l'école.
Merci
donc,
beaucoup.
La voilà. première chose c'est d'être stratégique et de parler réellement et de se soucier du développement parce qu'on attend plus de la femme.
Okay,
et
merci.
Non pas les discours
voilà.
ou la parité mécanique qu'on,
voilà. merci
qu'on
beaucoup.
Revendique.
Merci beaucoup, Maître Elodie. Pour vous, c'est vous plaider pour que les femmes développent elles-mêmes donc des stratégies pour arriver à arracher ces dons, ces cadeaux constitutionnels qui est autre que la parité telle que consacrée dans cette loi fondamentale. Ne vous êtes pas d'avis selon lesquels que effectivement il va falloir modifier cette disposition et qui est une règle d'or dans cette loi. Merci beaucoup. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs, Franck.
Bonjour mon ami Ger, bonjour à tout le monde au studio. Bonjour aussi à notre invité, notre maman ministre honoraire.
Quel est votre commentaire, Franck?
Oui. Merci beaucoup. Je dois peut-être commencer par encourager les quelques mamans qui sont, et quelques femmes qui sont nos mamans, qui sont nos sœurs, qui sont nos amies d'enfance, qui se sont quand même donné du courage pour postuler à des différentes échéances, soit nationales, soit provinciales. Par rapport à la thématique du jour, j'ai bien suivi l'introduction et je partage partiellement ce que notre maman l'invité a essayé de mettre en place là. Mais je crois que, mon ami Gérard, il y a quand même certaines choses à recadrer. Les élections, c'est une compétition ouverte pour tout le monde, sans distinction des races, sans distinction des genres. Et les critères pour cette compétition, ils sont fixés et pour les hommes et pour les femmes. Donc, la caution que les présidentiables doivent payer, c'est autant pour les hommes, pour les femmes, pour la députation nationale, autant pour les hommes, pour les femmes. Donc là, je crois que de ce côté-là, la loi est égale vis-à-vis de tout le monde et la loi doit s'appliquer par rapport à tout le monde. Mais personnellement, ce qui me fait un peu mal ou ce qui m'étonne, c'est de voir la faible proportion de nombre de femmes qui se sont donné du courage pour postuler. Nous avons quand même, il y a des mamans, il y a des sœurs, il y a des tantines, il y a nos amis d'enfance dont on ne peut même plus remettre en question les mérites, les compétences. Mais moi, personnellement, ça m'étonne pourquoi beaucoup d'entre elles se sont réservées. Je crois que le problème, ce n'est pas seulement à aller chercher du côté de la loi. Parce que pour une compétition comme les élections, on dit qu'on a 500 places là-bas. Les 500 places peuvent être occupées soit en majorité par les hommes, soit par les femmes. C'est question de s'organiser et puis question de se mettre en ordre de bataille. Je crois que nos mamans, nous les encourageons, nous les aimons parce qu'elles nous ont donné la vie, elles nous ont éduqués, elles ont fait de nous ce que nous sommes. Et moi, personnellement, il y a des amis, il y a une de mes sœurs à Kikwit, il y a une de mes mamans qui est vers Popokabaka, il y a mes amis d'enfance, il y en a qui ont postulé. Je les ai encouragés, j'ai même dit, voilà pour la campagne, on commence par ci, on commence par là, voilà les gens des discours. Donc, si une maman se donne du courage pour postuler, je ne vois pas pourquoi on ne va pas la soutenir.
Merci.
Mais la question est de savoir combien de nos mamans
se donnent du
courage pour postuler.
Voilà, merci
beaucoup. Je crois que c'est aussi maintenant une question ouverte. Mais pourquoi ne se donne-t-il pas du courage? Parce que, mon ami Gère, je suis dans un autre continent depuis des années. Je peux rassurer à nos mamans congolaises qu'elles ont un très bon niveau, parce que le problème de scolarité chez nous, je crois que ça ne se pose plus tel que les gens se l'imaginaient, peuvent se l'imaginer. Peut-être dans certains coins, il y a encore ce mythe-là culturel pour dire que non, la jeune fille n'est vouée que pour la maternité, le jeune garçon, non. Moi, j'ai grandi à Bandundu-Ville, j'allais à l'école avec des filles, dans ma classe de 5e, 6e primaire, il y avait des filles qui brillaient plus que moi. À l'université, on a été avec des filles, il y en a qui brillent plus que moi. Maintenant que je parle, il y en a qui me suivent, il y en a qui sont des cadres de la fonction publique, à la Cour des comptes, dans des organismes. Je crois qu'à une fille à qui on a donné de la chance pour aller à l'école, n'a plus de complexe.
Merci
et
beaucoup.
Moi, je peux dire qu'on doit plus encourager.
Merci beaucoup, Franck.
On doit plus encourager.
Voilà,
on doit peut-être chercher à réveiller les potentialités qui sont dans nos mamans qui
l'attente.
Ne savent pas s'en servir convenablement.
Merci
mais je
beaucoup,
crois que le problème n'est plus aller chercher la loi. Non,
voilà.
Je crois que
on a compris, Franck.
Et il faut plus
vous risquez de revenir sur ce que vous avez déjà dit. Il ne faut pas aller réveiller la loi qui a déjà tout défini. Mais maintenant, pour vous, les élections, c'est compétitif. Alors, il faudrait que les gens se mettent en tête qu'ils ont tous les mêmes chances par rapport aux compétences et des ambitions qu'ils vont exprimer. Merci beaucoup. Madame Faïda, vous êtes avec nous en ligne.
Ouais.
Quelle est votre réaction? Après avoir écouté les uns et les autres, je crois que chacun a émis son petit commentaire par rapport à cette question. Il y a d'autres qui sont favorables également pour la modification de cette disposition constitutionnelle, dès lors qu'on n'arrive pas vraiment à l'appliquer. Mais bon, Maître Elodie, elle propose plutôt aux femmes de pouvoir s'organiser et proposer d'autres stratégies pour arriver réellement à arracher ces gâteaux.
Merci beaucoup, j'ai suivi Jérémy, Ignace, Maître Elodie, notre ami...
Franck Devienne.
Franchement, je respecte leurs avis. Je respecte leurs avis, mais je me dis que peut-être que nous ne parlons pas le même langage. Dans tout système démocratique, il y a des piliers. Et parmi ces piliers, il y a notamment l'égalité. Alors, lorsqu'on se met à dire, mais les femmes, mais dans l'entretemps, ils sont conscients que les femmes font objet de discrimination. Il y a des années, est-ce que doit-on attendre la scolarisation des filles après 100 ans pour faciliter l'accès des femmes dans les organes décisionnels? Je dirais non. Et ça ne fait pas partie de leur compréhension. Mais nous sommes devant une difficulté ici. On ne parle pas d'une faveur, parce que souvent les gens disent, et j'ai suivi certains d'entre nos invités qui disent, nos intervenants qui disaient, oui, les femmes doivent arrêter des stratégies. C'est un problème de droit. C'est un problème de droit lorsqu'on parle de la participation comme pilier de la démocratie. Vous ne pouvez pas être dans une communauté et vous dites 12% que représentent, disons, deux femmes seront dans les institutions et il y aura 78 ou 88% des femmes et tout, des hommes et tout. Non. On doit faciliter la participation de façon égalitaire des hommes et des femmes pour s'attendre à un développement. Oui, est-ce que les femmes ont fait des différences? Pour qu'il y ait action positive dans des institutions, au niveau gouvernemental, ça demande une complémentarité d'action. Donc, une seule femme ministre ou deux femmes ministres ne peuvent pas changer l'image de toute une grande institution qu'on appelle gouvernement. Même chose pour le Parlement. Donc, nous devons savoir ce que nous voulons. Nous voulons vivre les changements. Nous devons vraiment travailler pour l'équité, pour l'égalité des chances de toutes les catégories sociales. Les hommes, les femmes, les pygmées, les handicapés, les personnes vivant avec handicap et tout le monde. C'est ce qui fait à ce qu'un État arrive, franchement, à faire un pas, à effectuer un pas. Ok, mais je suis tout à fait d'accord par rapport à une responsabilité des femmes elles-mêmes. Parce que bien sûr, nous avons suivi depuis 2 ans qu'il y aurait telle femme candidate. Nous ne parlons pas de la caution. Parce que si la caution constituait un problème, il fallait qu'elle nous en parle, que voilà, moi je voudrais être candidate, mais je manque de l'argent. Et les gens allaient se cotiser, si pas un dollar. Mais je ne pense pas que c'est cela le problème. Ok, mais aujourd'hui là, parce que vous avez dit qu'est-ce qu'il faut faire, il faut continuer à s'assumer et à considérer que la question de la femme doit faire appel à une question d'intérêt national. C'est une question d'intérêt national, c'est pas une question de femme, parce que lorsqu'on parle du développement, lorsqu'on parle de l'inclusivité, ici il ne s'agit pas seulement des femmes, nous sommes en train de parler de la justice et qui doit en tout cas intégrer tout le monde. Donc moi je crois que nous avons peut-être, nous ne nous comprenons pas lorsque nous parlons de la participation de la femme dans la gestion de la chose publique. La chose publique commence par quoi? Ça commence par le ménage. Si aujourd'hui il y a des ménages qui continuent à faire scolariser les enfants, mon frère journaliste, allez dans le Bas-Congo, allez dans le Kivu, et il faut voir le travail que réalisent les femmes pour la survie des ménages. Tout le monde est d'accord quant à ça. Mais pourquoi alors ne pas leur donner la possibilité d'entrer dans les organes décisionnels de manière à ce que le peuple trouve son compte? Et moi je crois, par rapport à cela, la lutte continue.
Nous vous gardons encore en ligne le temps d'accueillir deux autres auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Il y a Pichu qui est à Kwilungongo et Pacifique à Lubumbashi. Pichu, bonjour.
Bonjour, Julien.
Quel est votre avis?
Merci beaucoup d'abord pour l'occasion et je salue Madame Faïda, que j'apprécie beaucoup à l'époque quand elle était ministre. Et je salue les propos de Maître Elodie, je crois, si je ne m'abuse pas. Mm-hmm. À cet stade, bien, je vous avoue qu'il ne suffisait pas au chef de l'État de promulguer cette loi seulement de parité, mais plutôt qu'à la femme de comprendre qu'il fallait beaucoup travailler là-dessus pour que cela puisse être mis en pratique. C'est-à-dire que le chef de l'État a promulgué, oui, nous avons accepté, mais ce n'était pas du tic au tac. D'un matin, la femme se réveille, il y a 50% des ADG, 50% des bourgoumestres, 50% de ceci, cela. Mais la femme devait comprendre, parce que Madame Maître Elodie a évoqué quelque chose de très important, en disant qu'il y a des femmes qui sont passées par le gouvernement, il y a des femmes qui ont occupé des postes, mais il suffisait pour elles de prendre seulement cette responsabilité et de regarder juste à côté d'elle, il y a ma soeur qui est en chômage, il y a une maison que je n'ai pas encore construite, il y a ceci, cela. Or, ça devait tirer profit pour cette femme de profiter de ce moment où il est à la tête soit du ministère, soit responsables d'une entreprise publique de mettre en pratique des exercices pour pouvoir relever, en fait, pouvoir attirer plus de femmes derrière elles. Je donne seulement l'exemple. Il y a des femmes qui travaillent. Je vois Mme Janine Mabunda, comment elle travaille à côté du chef de l'État. Je vois Mme Geneviève Ilagos qui est tout le temps à côté de la serre du chef de l'État. Et il travaille, je crois. Mais je crois que ce n'est pas, ça ne suffit pas du tout pour que cette femme-là puisse relever le défi, comme a dit Mme Elodie. En termes de compétences, je dis que la femme compétente existe au Congo, qui peut même être chef de l'État. Mais les partis politiques, leur appartenance, leur couleur politique ne les aide pas.
Alors donc, Pichou, vous rejoignez donc Madame Faïda Mwangilwa qui disait tout à l'heure, le combat n'est pas encore terminé. La loi électorale devait disposer, au fait, et de manière contraignante, en favorisant donc l'égalité. Le fait de ne l'avoir pas fait, résultat, le faible pourcentage de participation des femmes.
Je crois que Mme Faïda a raison, parce que les lois devaient aider en amont la femme. Parce que aujourd'hui, si, comme on est en train de suivre certaines lois au niveau de la CENI, il suffisait seulement que la CENI puisse imposer cette loi de dire que si vous nous amenez une liste, dans cette liste, on doit avoir 50% de femmes, 50% des hommes. Les partis politiques s'arrangeraient derrière cette loi pour mettre. Je ne pense pas que des femmes incompétentes existent dans ces partis. Vous avez cité l'exemple de Mme F. Bazaïba. C'est une femme d'arc aujourd'hui au Congo. Moi, je pense que si nous lui donnons la chance, toutes les femmes lui donner la chance d'être, je ne sais pas moi, à la tête du pays, je pense qu'elle peut faire mieux parce que cette femme raisonne. Je prends l'exemple d'ici, là où moi j'habite, à Kwilungongo. Il n'y a qu'une seule femme à la députation provinciale. Or, la cité est une agglomération de plus de 80 000 personnes. Mais imaginez-vous, il n'y a qu'une seule femme médecin qui va représenter 1 million au niveau de la
province. C'est un trait, là.
Donnerons-nous la chance à cette femme de briguer.
Merci beaucoup, Pichou. Alors, on va prendre Pacifique, qui nous a également rejoint. Pacifique, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, JR. Également, j'ai dit bonjour à Madame Faïda.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Merci, JR. Tout de suite là, je vous dirai tout simplement qu'il y a une discrimination qui ne dit pas son nom. La femme est discriminée. Ça, nous devons le savoir. De prime abord, je vous donne un cas qui vient de se passer à Lubumbashi, où une femme qui était la fédérale dans un parti politique, mais du moment où on devait aller déposer les candidatures, parce qu'on avait exigé deux personnes tout simplement, le vice-président national est descendu pour débarquer la femme et prendre la place de la femme. Et la femme a été est choqué. Il a dit, mais c'est pas possible. De tout ce temps, j'ai passé mon temps inutilement pour rien. Tout ça, je me suis donné pour le parti et tout ça. Vous voyez, les décideurs hommes sont à la base de tout ça. On ne va pas dire aujourd'hui que la femme n'a pas fourni un effort. La femme fournit un effort. Elles sont là dans les partis politiques, que ce soit la majorité, que ce soit dans l'opposition. Allez-y, faire les décomptes. Combien de femmes on a proposé les candidatures? Non, elles ne sont pas nombreuses, et pourtant que ce sont des structures, et pourtant que ce sont des institutions où on devait propulser les femmes. Je prends le cas, par exemple, si on peut nous dire que les femmes sont, nous avons des femmes intelligentes en République démocratique du Congo.
Mais Pacifique.
Angela Merkel a été soutenue par la femme, Theresa May est plutôt par les hommes, mais Theresa May soutenue par les hommes, vous voyez. Et Jeannette Mabunda, nous pouvons citer ce cas-là. Philomène Omatuku, Zouzou Ambombo, aujourd'hui nous avons les Faïda Mwangilwa. Elles sont là, et les autres femmes sont là. Ce sont les hommes qui ne veulent pas que les femmes soient propulsées avec des barrières culturelles où la femme ne peut pas aller si loin. Mais néanmoins, je pourrais également donner la faute à la femme. Une fois que la femme est là, la femme ne croit pas dans une autre femme. La femme préfère.
Mais alors, mais si nous-mêmes déjà, oui, pas pacifique.
Cette femme-là soit compétente, je...
Oui, mais si nous-mêmes déjà on fait, ben, au niveau déjà des paroles aux auditeurs, quand nous ouvrons notre standard, et puis bon, finalement les femmes appellent de moins en moins, même celles qui ont été écartées de la course à la députation nationale, le fait que leur dossier ne soit pas déclaré recevable, ben elles pouvaient aussi appeler pour intervenir et ajouter sur notre réflexion d'autres éléments importants qui pourraient éclairer la lanterne des uns des autres même. Malheureusement, on sent de moins en moins que ces femmes s'intéressent quand même à l'échange, au débat, pour se donner une place dans la société. Voilà, donc comme disait, il y a quand même un travail aussi qui devait être fait par la femme elle-même, et tout le monde est d'accord parmi les intervenants. Alors, on va prendre Bintou qui est à Kimpese. Merci Pacifique. Bintou, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur JR. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la Radio Café.
Quelle est votre contribution?
J'ai 5 petits points. Le premier, c'est pour dire que le combat politique est un combat de la méritocratie, où l'homme et la femme doivent se battre avec les chances égales. Il n'y a pas de favoritisme dans un combat politique. De la même manière que les femmes se battent pour gagner leur vie, elles doivent encore se battre aussi pour étudier, elles doivent aussi se battre pour participer à la vie politique active. Mais généralement, nous constatons que la plupart de nos de femmes, de nos filles, de nos femmes, de nos sœurs ne veulent pas participer dans la vie politique. Le pourcentage qui participe est très faible par rapport au pourcentage des hommes. Deuxième point, c'est la pauvreté. La RDC est un pays où la population vit avec moins de 1 dollar par jour. Cette pauvreté touche les hommes comme les femmes. Mais dans notre pays, cette pauvreté se féminise, surtout en Afrique et principalement dans notre pays. Vous allez trouver que le pourcentage des hommes, des femmes qui ont un peu de moyens est très faible par rapport aux hommes. Et même ceux qui sont en train de diriger en Afrique ou dans notre pays, vous trouverez que le grand pourcentage est masculin et il n'est pas féminin. Cela s'explique dans le faible pourcentage de femmes à travers nos institutions. Troisième point, c'est le refus de la femme à affronter les risques. La plupart des femmes se résignent, soit refusent de prendre les risques en politique, puisqu'elles se disent non, en allant là-bas, on va mourir. Or, il y a des morts chaque jour dans nos hôpitaux et partout à travers la République qui ne sont pas liées à la politique. Or, la femme doit accepter de prendre les risques. S'engager dans la politique, c'est prendre des risques. Et c'est ces risques-là là, que la femme est en train d'éviter, qui fait assez que le pourcentage puisse encore être faible. Quatrième point, c'est l'éducation de la femme. La culture congolaise ancienne privilégiait beaucoup des hommes par rapport aux femmes. Mais actuellement, la tendance est à l'inverse. Vous trouverez que dans nos universités, il y a beaucoup de filles qui étudient, plus même que les hommes. Les garçons, ça s'adonne à l'oisiveté, à la consommation de drogues, pendant que les filles sont en train de faire des efforts et étudier. Ne vous étonnez pas que dans les années à venir, que ce soit le fille ou une femme qui sera à la tête du pays, puisque elles sont en train d'étudier plus que les hommes. Cinquième point, c'est pour terminer, c'est non-respect des lois de la République. La RDC est un pays spécialiste des bonnes lois, mais qui ne seront jamais appliquées. Nous savions que pendant la transition, on avait appliqué, on avait fait cette loi-là pour faire plaisir aux femmes et puis surtout pour chercher à amadouer la situation qui s'était passée, des viols et tout ce qui s'était passé pendant la guerre. Et cette loi-là n'a jamais été appliquée jusqu'à présent, il y a de cela plus de 15 ans. Je ne sais pas si s'il n'y a pas changement. Heureusement que la République est en train de s'engager dans un moment important d'alternance. Je pense qu'après l'alternance que nous sommes en train d'obtenir bientôt, la première alternance que le peuple congolais va voir et va bénéficier, cette alternance permettra ce que qu'on donne les chances égales et aux hommes et aux femmes. Et vaincre aussi la pauvreté, et cela permettra qu'il n'y ait plus de discrimination.
Merci beaucoup, Bintou. Alors, Madame Faïla Mwangulo, votre réaction?
Merci beaucoup, Monsieur Bintou. Je pense que peut-être Bintou doit continuer à s'informer. Les lois dites de violence sexuelle, parce que notre code pénal congolais a été révisité par rapport à la problématique des violences sexuelles dont les femmes ont été victimes pendant les conflits armés jusqu'aujourd'hui.
il ne peut pas dire que ces lois ne sont pas appliquées, parce qu'il y a des gens qui font la prison, d'autres qui ont fait la prison, des policiers qui sont en train de travailler, les institutions judiciaires sont en train de travailler. Bien sûr, il y a des défis énormes, il y a des défis par rapport au fonctionnement même de l'appareil judiciaire. Il faut beaucoup de moyens. Oui, notre ami Pichou dit il faut que les femmes continuent à travailler. Monsieur Pichou, je dois t'avouer, vous êtes à Kwilungongo, les femmes à travers le pays, dans toutes les 26 provinces, sont en train de travailler. Elles sont beaucoup plus actives, surtout par rapport à la participation politique de la femme. Donc, ce ne sont pas des ressources que nous manquons. De deux, ici, il n'est pas question de continuer à dire qu'elles doivent être compétentes, elles doivent bien sûr être compétentes, mais les hommes doivent aussi être compétents. Le choix doit être clair par rapport aux acteurs politiques, hommes comme femmes. Mais la question de continuer à dire mais les femmes doivent être compétentes, tout acteur politique qui s'engage à assumer les fonctions publiques doit être un leader, un modèle par rapport à ses actions posées en faveur de la population. Et par rapport à cela, pour les autres observations, merci beaucoup en tout cas, monsieur JR. Je pense qu'une telle émission serait bonne d'être réalisée dans les chefs-lieux de chaque province, même après les élections, pour comprendre à fond de quoi il s'agit. Il y a des enquêtes qui sont publiées. Et il est vrai que des pesanteurs culturels, aujourd'hui là, les gens croient beaucoup plus à leur culture. Même monsieur Pichou, je ne sais pas s'il est marié ou quoi, c'est sa vie, mais Pichou ne peut pas peut-être accepter que sa femme fasse la politique. C'est ça le débat, monsieur Juillet. Voilà. Combien d'hommes acceptent que leurs femmes fassent la politique, leurs épouses? Combien d'hommes, même nous autres qui faisons la politique, à un certain moment, nos parents, nos frères nous disent, mais il faut laisser, vous mettez votre vie en danger, il suffit de rencontrer une difficulté sur le plan sécuritaire, et c'est tout le monde qui se mobilise pour dire tout cela, c'est parce que tu fais la politique. J'ai apprécié Pacifique quand il a dit, il y a des morts partout, pourquoi avoir peur? Tout cela, ça, ce sont les séquelles des pesanteurs culturelle, parce que la politique en soi ne doit pas être là pour nuire aux autres. Ça, c'est la mauvaise compréhension de la politique. Les politiciens ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires et qui doivent, en tout cas, qui se doivent respect mutuel. Donc, je crois que par rapport à ça, M. JR, il y a beaucoup de choses à dire.
Voilà, nous
sommes choqués par rapport au taux de participation des femmes comme candidates aux élections provinciales et nationales, et nous allons continuer à travailler. Alors, travailler au niveau local, nous souhaitons vraiment avoir ces élections au niveau local, et on verra quel est ce dirigeant qu'il faut soutenir, et celui-là ou ceux-là qui soutiennent la participation politique des femmes, surtout à la base. Et moi, je crois que la balle est entre notre cas et entre nos mains, et nous devons continuer de travailler avec votre concours, vous comme les journalistes, parce que nous comprenons le rôle des médias. Il faut absolument déconstruire les préjugés qui ont été étalés sur le chemin politique de la femme.
Voilà, merci beaucoup Madame Mamongila Faïda d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes ministre honoraire du genre, famille et enfants. À très bientôt.
À très bientôt, merci.
Voilà Sylvain, vous êtes avec nous. Sylvain, vous serez peut-être le dernier auditeur à intervenir. Sylvain, vous êtes en ligne?
Je vous écoute.
Voilà, vous avez la parole, Sylvain, vous avez 1 minute 30.
Ah oui, merci. En fait, en attendant Madame Faïda, j'observe plusieurs choses, mais étant donné que je n'ai pas assez de temps, je dis ceci. La femme doit arrêter avec cette histoire d'être chaque fois manipulée, de servir comme des tapis pour les hommes politiques. Moi, je l'ai toujours dit, et là, j'ai du mal quand j'écoute Madame Faïda parler des 26 provinces où les femmes sont actives. Moi, j'ai dit peut-être chez moi, en Ituri, non. Et nous avons toujours souhaité que les femmes puissent s'impliquer correctement dans la politique. Aujourd'hui, on dit qu'elles ne représentent rien, pratiquement 12%, que ce soit comme candidat député provincial et national. Voilà un problème. Et moi, j'ai dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de cadeau à faire entre soi. L'homme comme la femme, tous, ayant une vision pour ce pays, doivent s'intégrer correctement dans la lutte politique et ici, dans des formations politiques pour assumer de grandes responsabilités. Moi, j'ai toujours dit que avec le chef de nous, hommes, il faut que la femme puisse se relever pour construire ce pays. Voilà tout ce que j'ai dit, et c'est mon souhait.
Oui, mais Sylvain, mais quand la loi électorale ne consacre pas cette égalité, c'est là où ça pose problème, c'est qu'a dit à notre invité tout à l'heure.
En fait, la loi électorale ne pouvait pas dire qu'il faut qu'il y ait 50-50, non, mais c'est une question de combat politique de chacun. Voyez bien, il y a des pays où les femmes sont représentatives dans les institutions politiques. Cela est lié aussi au combat qu'elles font dans les formations politiques. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Je vous dis, la réalité est que les femmes veulent plus nous tendre des temps que nous, les hommes politiques, et nous marcher dessus. Voilà les résultats qu'elles ont. Moi, je dis, et j'insiste là-dessus, il faut que la femme quitte cette étape des choses, mais aller vers un combat. Puisque ce qui est vrai, comme l'invité l'a dit, là je la soutiens, c'est que le plus souvent, la femme est limitée d'elle-même. Mais une femme de vision, celle qui veut donner sa contribution pour ce pays, n'attend pas qu'on lui donne des dons. La question des dons, il faut oublier ça. Mais c'est en fait un engagement politique de la femme congolaise. Puisque j'ai toujours dit, ce pays doit être redressé par des femmes qui ont compris les responsabilités. Puisque nous, hommes, on a démontré de notre incapacité, de notre égoïsme. Mais aujourd'hui, la femme devrait se lever et ne pas attendre de l'homme qui a été égoïste même entre eux-mêmes.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvain d'avoir appelé des Bounia et nous profitons par ici pour remercier tous les auditeurs qui ont commenté, qui ont lu et commenté ces sujets sur notre page Facebook. Donc prenez rendez-vous avec nous demain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs et nous n'allons pas nous quitter sans pour autant dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, Pierrot Lamegi, Jean-Claude Nsiala sous la supervision de Martin Sebujangwe. Ces programmes vous ont été coordonnés et présentés par J.R. Lungembo Luabung Angie.